Très heureux de le retrouver, Lawrence Cannon, ex-ambassadeur du Canada à Paris, ex-ministre fédéral provincial, ex-conseiller municipal, toujours père de famille. Par contre, là, il n'y a pas ex de ce côté-là. Lawrence Cannon, bonjour.
Bonjour, Mathieu.
Aujourd'hui, là, c'est vraiment, là, on se transforme en astrologue avec la carte du ciel de ce qui pourrait se passer en 2019, notamment avec nos plus grands partenaires économiques, les États-Unis.
Absolument. Et puis, depuis le début de l'année, Mathieu, il y a tellement d'événements qui se sont précipités sur la scène mondiale, je pense.
C'est vrai, il y a juste 10 jours à l'année de fête, puis on pourrait faire une revue de l'année quasiment.
Ben oui, alors, tu sais, il y a cette déclaration quasi belliqueuse de la part de Xi Jinping, président chinois à l'égard de Taïwan. Il y a l'alunissage de la sonde spatiale chinoise sur la face cachée de la Lune. Donc, qu'est-ce que ça fait au niveau de la géopolitique spatiale? Il y a toute la question des gilets jaunes que tu as évoquée cette semaine avec Luc.
Oui, 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 tout à fait.
Qui est la 8e semaine. Et puis, le grand débat va s'amorcer le 15 janvier prochain. Donc, on pourra en parler davantage. Il y a toute la question du Brexit qui s'en vient à grands pas. Il y a surtout le dévoilement ce matin des résultats des élections qui ont eu lieu dans la République démocratique du Congo. Il y a le coup raté, le putsch raté au Gabon. Bref, il y a plein de choses.
Puis là, on n'a pas encore parlé de Donald Trump.
Puis là, on n'a pas parlé du mur.
À lui seul, il a rempli une couple de journaux, on s'entend là-dessus. Mais là, quand on regarde aussi le calendrier, ben on est rendu en 2019. Élection du côté des États-Unis, on a quasiment la moitié. On a un petit peu plus que la moitié de fait. On a franchi le mois de novembre. Est-ce que le Parti républicain n'est pas en train de se scinder, je ne sais pas trop quoi, mais un petit peu faire un parallèle, peut-être un peu boiteux, mais ce qu'on a vécu avec le Reform et le Parti conservateur ici au Québec au début des années 90, en 93 plus précisément, est-ce qu'on est peut-être là? Est-ce qu'il y a assez d'opposition à l'intérieur des Républicains?
C'est une excellente question, Mathieu, puis je me suis posé la même question que toi. Je me suis dit, est-ce que les conditions nécessaires pour provoquer une primaire républicaine en 2020 sont présentes? C'est-à-dire, qu'est-ce qui causerait chez Donald Trump la nécessité de se battre pour être choisi comme candidat
à l'investiture,
de garder son poste?
Parce que c'est assez rare que ça arrive. Habituellement, un président, un mandat, il continue.
Oui, c'est ça. Puis, depuis les dernières années, tu as absolument raison, c'est très rare que le président sortant soit contesté à l'intérieur même de son propre parti. Mais je rappelle quelques éléments. Quand on a, tu te souviens, à l'occasion aux élections de mi-mandat au mois de novembre dernier, les Républicains ont subi la pire défaite depuis le scandale de Watergate.
Ça, c'est
à l'époque de Richard Nixon. Et puis,
pour les plus jeunes, ça fait à peu près 40 ans.
Absolument. Et puis, il y a toute la question de l'enquête que Robert Mueller est en train de mener concernant l'implication, évidemment, de la Russie dans la campagne présidentielle de 2016. Mais avec la nouvelle donne de la Chambre des représentants qui est aujourd'hui contrôlée par les démocrates, s'ajoute donc la possibilité d'avoir les dirigeants démocrates qui sont responsables des travaux de la Chambre ou des différents comités, de eux aussi commencer à intenter des actions contre Trump. Il faut se rappeler que le président a besoin de l'appui des républicains présents au Congrès dans les deux chambres, donc pour écarter toutes les tentatives de le remplacer à l'occasion de la prochaine élection présidentielle, mais aussi pour empêcher sa destitution. La décision qu'il a prise, décision intempestive il y a 2 semaines de retirer les forces de combat américains de la Syrie, ont certainement irrité beaucoup de personnes dans son parti, d'autant plus que, tu te rappelleras, le général Mattis, qui était le secrétaire à la Défense, a remis sa démission à la suite de ça. Donc, il ne s'est pas fait des amis à l'intérieur des Républicains au Congrès. Puis, comme tu évoquais il y a quelques instants, pour assurer sa réélection, il va avoir besoin non seulement d'un parti fermement derrière lui, mais aussi, il va devoir élargir ses appuis à l'intérieur, à l'extérieur de son parti.
Parce que là, tu n'en as pas parlé depuis le début, mais faut pas oublier que les États-Unis sont en train de vivre le plus gros gel gouvernemental quasiment de l'histoire du pays. Là.
Absolument.
La machine, elle roule pas. Puis ceux qui roulent, exemple les douaniers, ils sont pas payés.
Tout à fait.
Je comprends que le douanier, c'est peut-être pas l'organisateur numéro un du Parti républicain, mais à un moment donné, quand ça commence à bouillir, tu sais, quand le cancer prend, là, ça peut se répandre vite.
Ben, il y a 800 000 personnes, 800 000 fonctionnaires qui, aujourd'hui, ne recevront pas leur chèque de paye. Alors, tu as absolument raison de dire que ça, ça crée des problèmes pour le président. Et dans ce bras de fer qu'il mène avec les démocrates, les sondeurs indiquent que c'est pas lui qui gagne.
Ah oui?
Alors, une majorité d'Américains sont tout à fait d'accord avec les démocrates et appuient les démocrates dans cette lutte à s'opposer à la construction d'un mur. Et donc, ça pose, évidemment, comme je disais au début, regardons les scénarios qui sont là. Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte qu'on dise, bon, bien, chez les républicains, merci, M. Trump, c'est le temps de partir. Où on va trouver un candidat. J'ai réfléchi, il y a deux espèces de scénarios qui peuvent, Mathieu, se déferler pendant qu'on regarde ça. Il y a le premier, évidemment, puis ça c'est tout à fait farfelu, c'est de dire s'il y avait une ouverture à la Cour suprême et que Trump nomme quelqu'un qui est favorable à l'avortement, ben c'est clair que les républicains ne l'appuieraient pas.
Ouais,
pour être plus sérieux...
Il n'ira pas jouer dans ce film-là, là, lui.
Non. Pour être plus sérieux, je pense que ma première observation, premier scénario, comprend évidemment le travail que Mueller continue de faire. Et bien que les démocrates et les indépendants aux États-Unis croient que l'enquête est pleinement justifiée et que les républicains y voient juste de la politicaillerie, dans le fond, il demeure possible que ça change. Parce que si l'enquête de Mueller découvre que la preuve irréfutable que Trump a personnellement pris part aux côtés des Russes et comploté pour dérailler les élections, là, je pense que ça modifierait considérablement ses appuis parmi les républicains au Congrès et la direction du parti. La deuxième chose qui pourrait se produire cette année... C'est une question extrêmement importante qui est liée à l'économie, s'il y avait récession. Pour l'instant, on pardonne beaucoup à Trump parce que l'économie américaine fonctionne à plein régime. Alors, qu'il mente, qu'il fasse plein de choses, jamais l'économie américaine s'est mieux portée. Donc, je pense que chez l'électorat, on va lui pardonner bien de choses. Mais s'il y avait un semblant de récession, moi, je pense que ses appuis... s'effriterait comme, évidemment, la neige au printemps.
Est-ce qu'il y a des appuis aux côtés de l'establishment économique? Parce que je regardais hier un reportage de Radio-Canada, hier ou avant-hier, on était à Plattsburgh pour voir qu'est-ce qu'ils pensaient du mur. Et puis, entre autres, il y a un citoyen, il dit non, moi, j'appuie ça. Il dit, il est temps que ça arrête de rentrer aux États-Unis. Je paraphrase, évidemment, là, mais oui. Bon, le bon peuple, certains l'appuient, surtout ceux qui ont dit, ceux qui ont entendu son discours de « on va vous en donner des jobs, puis les jobs qui s'en vont à l'extérieur, on veut plus ça », mais du côté de l'establishment, là, les grandes personnes riches, les grandes fortunes, est-ce qu'on l'appuie, Trump?
Ils sont
assez discrètes, habituellement, ces personnes-là?
Oui, généralement, mais quand on regarde le financement des partis politiques, que je réponds avec ça, quand on regarde le financement des partis politiques aux États-Unis, contrairement ici, il y a un plafond ici sur les contributions qui peuvent être faites. Mais aux États-Unis, là...
Le carnet de chèque, oui.
C'est
une campagne, on est rendu dans les milliards.
Ah bien, absolument. Mais je pense que ce qui devrait préoccuper davantage, c'est est-ce que la question c'est, est-ce que les républicains, Cette entité politique est un bloc homogène ou est-ce qu'il est en pièces détachées? J'évoquais au début de la chronique cette défaite historique que les républicains ont subie. Je consultais des sondages au cours du week-end et puis je voyais bien que chez les moins de 30 ans, Mathieu, il y a une défection. C'est-à-dire ceux qui ont voté républicain en 2016 sont maintenant rendus avec... avec les indépendants. Il glisse vers les indépendants. L'autre élément qui m'a vraiment fasciné, c'est chez les moins de 45 ans, chez les femmes, chez les plus modérées, chez les femmes en milieu urbain, périurbain, il y a aussi une défection. Et ces gens-là quittent les républicains parce que ils se disent on n'est plus à l'aise, on n'est plus confortable, on n'est pas confortable dans cette formation politique. Alors, à la question première, est-ce que Trump risque de se faire contester? Je dirais peut-être pas maintenant, mais je pense que les ingrédients commencent à prendre racine.
Ouais.
Et s'il y avait une candidature qui est peut-être, à l'intérieur des démocrates, c'est peut-être curieux à dire, plus à gauche que Donald Trump,
mm-hmm.
Des gens comme Jeff Flake, des gens comme Mitt Romney, etc., ça pourrait faire en sorte que on retrouve à l'occasion de la prochaine session, enfin pour la présidentielle, on retrouve un candidat qui va s'opposer à Trump. Et dans ce cas-là, c'est évidemment la division des républicains et les chances pour que Trump ravie le poste de candidat
mm-hmm.
Sont peut-être présentes, mais ça ne veut pas dire qu'il va gagner la prochaine élection. Je termine en donnant l'exemple de Hillary Clinton au mois de juin de 2016. Hillary mm-hmm. Clinton, parmi les démocrates, avait un score de 90%
d'appui. Mm-hmm.
Du moment où Bernie Sanders a décidé de s'embarquer ou s'engager dans la lutte, elle a chuté de 30 points. Oh. Alors, c'est majeur. Donc, pour les démocrates, ils doivent être bien heureux de voir que le dossier que Trump a tellement voulu épouser, celle de la muraille, ce mur dans le sud, est en train de lui créer des torts. Et donc, on verra bien pour la suite des choses, mais c'est là la situation comme je la vois juste.
Pas mal captivant. On risque d'en parler pas mal les jeudis à 7h. Merci, Lawrence Cannon. Bonne journée.
Merci, Mathieu.
Lawrence Cannon, ancien ambassadeur du Canada du côté de Paris.